Vous vous êtes tous figuré que rien n'était plus facile que de bien tirer et qu'il suffisait de vouloir pour tuer. Voyez le résultat. Vous avez été tous les trois ridicules dès ce matin. Vous avez méprisé nos conseils et notre expérience. Et enfin, vous êtes tous trois la cause de la mort de mon pauvre Médor. Je vois d'après cela que vous êtes trop jeune pour chasser. Dans un an ou deux, nous verrons. Jusque-là, retournez à vos jardins et à vos amusements d'enfants. Tout le monde s'en trouvera mieux. Pierre et Henri baissèrent la tête sans répondre. On rentra tristement à la maison. Les enfants voulurent enterrer eux-mêmes dans le jardin mon malheureux ami Médor, dont je vais vous raconter l'histoire. Vous verrez pourquoi je l'aimais tant. Chapitre 16, Médor. Je connaissais Médor depuis longtemps. J'étais jeune et il était plus jeune encore quand nous nous sommes connus et aimés. Je vivais alors misérablement chez ces méchants fermiers qui m'avaient acheté à un marchand d'armes et de chez lesquels je m'étais sauvé avec tant d'habileté. J'étais maigre, car je souffrais sans cesse de la faim. Médor, qu'on leur avait donné comme chien de garde, et qui s'est trouvé être un superbe et excellent chien de chasse, était moins malheureux que moi. Il amusait les enfants qui lui donnaient du pain et des restes de laitage. De plus, il m'a avoué que lorsqu'il pouvait se glisser à la laiterie avec la maîtresse ou la servante, il trouvait toujours moyen d'attraper quelques gorgées de lait ou de crème et de saisir les petits morceaux de beurre qui sautaient de la baratte pendant qu'on le faisait. La baratte, c'est la machine à faire le beurre. Médor était bon. Ma maigreur et ma faiblesse lui firent pitié. Un jour, il m'apporta un morceau de pain et me le présenta d'un air triomphant. « Mange, mon pauvre ami, me dit-il dans son langage. J'ai assez du pain qu'on me donne pour me nourrir. Et toi, tu n'as que des chardons et de mauvaises herbes en quantité à peine suffisante pour te faire vivre. Bon Médor, lui répondis-je, tu te prives pour moi, j'en suis certain. Je ne souffre pas autant que tu le penses. Je suis habitué à peu manger, à peu dormir, à beaucoup travailler et à être beaucoup battu. Je n'ai pas faim, mon ami, me dit Médor. Je t'assure que je n'ai pas faim. Prouve-moi ton amitié en acceptant mon petit cadeau. C'est bien peu de choses, mais je te l'offre avec plaisir, et si tu me refusais, j'en aurais du chagrin. Alors j'accepte, mon bon Médor, lui répondis-je, parce que je t'aime. Et je t'avoue que ce pain me fera grand bien, car j'ai faim. Et je mangeai le pain du bon Médor, qui regardait avec joie l'empressement avec lequel je broyais et j'avalais. Je me sentis tout remonté par ce repas inaccoutumé. Je le dis à Médor, croyant par là lui mieux témoigner ma reconnaissance. Il en résulta que tous les jours il m'apportait le plus gros morceau de ceux qu'on lui donnait. Le soir, il venait se coucher près de moi sous l'arbre ou le buisson que je choisissais pour passer ma nuit. Nous causions alors sans que personne pût nous entendre, car nous causions sans parler. Nous autres animaux, nous ne prononçons pas des paroles comme les hommes, mais nous nous comprenons par des clignements d'yeux, des mouvements de tête, d'oreilles, de la queue, et nous causons entre nous, tout comme les hommes. Un soir, je le vis arriver triste et abattu. « Mon ami, me dit-il, je crains de ne plus pouvoir à l'avenir t'apporter une partie de mon pain. » Les maîtres ont décidé que j'étais assez grand pour être attaché toute la journée et qu'on ne me lâcherait qu'à la nuit. De plus, la maîtresse a grondé les enfants parce qu'ils me donnaient trop de pain. Elle leur a défendu de me rien donner à l'avenir parce qu'elle voulait me nourrir elle-même et peu pour me rendre bon chien de garde. Mon bon Médor lui aurait dit, si c'est le pain que tu m'apportes qui te tourmente, rassure-toi, je n'en ai plus besoin. J'ai découvert ce matin un trou dans le mur du hangar à foin. J'en ai déjà tiré un peu et je pourrai facilement en manger tous les jours. En vérité, s'écria Médor, je suis heureux de ce que tu me dis. mais j'avais pourtant un grand plaisir à partager mon pain avec toi. Et puis être attaché toujours, ne plus venir te voir, c'est triste. Nous causâmes encore quelque temps, il me quitta fort tard. J'aurai le temps de dormir le jour, disait-il, et toi, tu n'as pas grand-chose à faire dans cette saison. Toute la journée du lendemain se passa en effet sans que je visse mon pauvre ami. Vers le soir, je l'attendais avec impatience lorsque j'entendis ses cris. Je courus près de la haie et je vis la méchante fermière qui le tenait par la peau du cou pendant que Jules le frappait avec un fouet de charretier. Clac, 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 clac. Je m'élançai au travers de la haie par une brèche mal fermée. Je me jetai sur Jules et je le mordis au bras de façon à lui faire tomber le fouet des mains. La fermière lâcha Médor qui se sauva, c'est ce que je voulais. Je lâchai aussi le bras de Jules et j'allais retourner dans mon enclos lorsque je me sentis saisir par les oreilles. C'était la fermière qui, dans sa colère, criait à Jules.
« Donne-moi le grand fouet que je corrige ce mauvais animal. » Jamais plus méchant femme n'a été vue en ce monde. Donne donc ou claque-le toi-même.
Mais je ne peux point remuer le bras, dit Jules en pleurant. Il est tout engourdi.
La fermière saisit le fouet tombé à terre et courut à moi pour venger son méchant garçon. Je n'eus pas la sottise de l'attendre, comme vous pouvez bien le penser. Non, je fis un saut et m'éloignai quand elle fut près de m'atteindre. Elle continua à me poursuivre et moi à me sauver, ayant grand soin de me tenir hors de la portée du fouet. Je m'amusais beaucoup à cette course. Je voyais la colère de ma maîtresse augmenter à mesure qu'elle se fatiguait. Je la faisais courir et suer sans me donner de mal. La méchante femme était en nage, était rendue, sans avoir eu le plaisir de m'attraper seulement du bout de son fouet. Mon ami était suffisamment vengé quand la promenade fut terminée. Je le cherchai des yeux, car je l'avais vu courir du côté de mon enclos, mais il attendait pour se montrer le départ de sa cruelle maîtresse.
« Misérable, scélérat !» cria l'enragée fermière en se retirant. « Tu me le paieras quand tu seras sous le bas !»
Je restai seul. J'appelai. Médor sortit timidement la tête du fossé où il était caché. Je courus à lui.
« Viens, lui dis-je, elle est partie. Qu'as-tu fait? Pourquoi te faisait-elle battre par Jules ?»«
Parce que j'avais saisi un morceau de pain qu'un des enfants avait posé par terre. Elle m'a vu, s'est élancée sur moi, a appelé Jules et lui a ordonné de me battre sans pitié. »«
Mais est-ce que personne n'a cherché à te défendre ?»«
Me défendre? Ah oui, vraiment. Ils ont tous crié, « C'est bien fait, c'est bien fait !» « Fouette-le, Jules, pour qu'il ne recommence pas !»« Soyez tranquille, répondait Jules. Je n'irai pas de main morte. Vous allez voir comme je vais les faire chanter et hurler. »
Et à mon premier cri, ils ont tous battu des mains et crié « Bravo, encore, encore !»« Méchant petit drôle, m'écriai-je. Mais pourquoi as-tu pris ce morceau de pain, Médor? Est-ce qu'on ne t'avait pas donné ton souper ?»«
Si fait, si fait. J'avais mangé. » Mais le pain de ma soupe était si émietté que je n'ai pu en rien retirer pour toi. Et si j'avais pu emporter ce gros morceau que les enfants avaient fait tomber, tu aurais eu un bon régal.
Mon pauvre Médor, dis-je, c'est pour moi que tu as été battu. Merci, mon ami, merci. Je n'oublierai jamais ton amitié et ta bonté. Mais ne recommence pas, t'en supplie. Crois-tu que ce pain m'eût fait plaisir si j'avais su ce qui devait te faire souffrir? J'aimerais 100 fois mieux ne vivre que de chardon et te savoir bien traité et heureux. Nous causâmes longtemps encore, et je fis promettre à Médor de ne plus se mettre à cause de moi dans le cas d'être battu. Je lui promis aussi de faire toutes sortes de tours à tous les gens de la ferme, et je tins parole. Un jour, je jetai dans un fossé plein d'eau Jules et sa sœur, et je me sauvai les laissant barboter et se débattre. Un autre jour, je poursuivis le petit de 3 ans comme si j'avais voulu le mordre. Il criait et courait avec une terreur qui me réjouissait. Une autre fois, je fis semblant d'être pris de colique et me roulai sur la grande route avec une charge d'œufs sur le dos. Tous les œufs furent écrasés. Et la fermière, quoique furieuse, n'osait pas me frapper. Elle me croyait réellement malade. Elle pensa que j'allais mourir, que l'argent que je leur avais coûté serait perdu. Et au lieu de me battre, elle me ramena et me donna du foin et du sang. Un bon dîner. Je n'ai jamais fait un meilleur tour de ma vie. Et le soir, en le racontant à Médor, nous étions écroulés de rire. Une autre fois, je vis tout leur linge étalé sur la haie pour sécher. Je pris toutes les pièces, l'une après l'autre, avec mes dents, et je les jetai dans le jus du fumier. Personne ne m'avait vu faire. Quand la maîtresse ne trouva plus son linge, et qu'après l'avoir cherché partout, elle le trouva dans le jus du fumier, elle se mit dans une épouvantable colère. Elle battit la servante, qui battit les enfants, qui battirent les chats, les chiens, les veaux, les moutons. C'était un vacarme charmant pour moi, car tous criaient, tous juraient, tous étaient furieux. Les enfants, ouais, ouais, les chats, miaou, miaou, les chiens, ou, 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 les veaux, bè, me, me, les moutons, bè, bè, bè. Ce fut encore une soirée bien gaie que nous passâmes, Médor et moi. En réfléchissant depuis à toutes ces méchancetés, je me les suis sincèrement reprochées, car je me vengeais sur des innocents, des fautes des coupables. Médor me blâmait quelquefois et me conseillait d'être meilleur et plus indulgent. Mais je ne l'écoutais pas. Je devenais de plus en plus méchant. J'en ai été bien puni, comme on le verra plus tard. Un jour, jour de tristesse et de deuil, un monsieur qui passait vit Médor, l'appela, le caressa, puis il alla parler au fermier et le lui acheta pour 2000 francs. Le fermier, qui croyait avoir un chien de peu de valeur, était enchanté. Mon pauvre ami fut immédiatement attaché avec un bout de corde et emmené par son nouveau maître. Il me regarda d'un air douloureux. Je courus de tous les côtés pour chercher un passage dans la haie, mais les trous étaient bouchés. Je n'eus même pas la consolation de recevoir les adieux de mon cher Médor. Depuis ce jour, je m'ennuyais mortellement. Ce fut peu de temps après qu'eut lieu l'histoire du marché et ma fuite dans la forêt de Saint-Évroult. Pendant les années qui ont suivi cette aventure, j'ai souvent, bien souvent, pensé à mon ami et j'ai bien désiré le retrouver. Mais où le chercher ? J'avais su que son nouveau maître n'habitait pas le pays, qu'il n'y était venu que pour voir un de ses amis. Quand je fus amené chez la grand-mère par mon petit Jacques, jugé de mon bonheur en voyant quelque temps après arriver avec l'oncle et les cousins Pierre et Henri, mon ami, mon cher Médor. Il fallait voir la surprise générale lorsqu'on vit Médor courir à moi, me faire 1000 caresses. Et moi, le suivre partout. On crut que c'était pour Médor la joie de se trouver à la campagne. Pour moi, on pensa que j'étais bien aise d'avoir un compagnon de promenade. Si l'on avait pu nous comprendre, deviner nos longues conversations, on aurait compris ce qui nous attirait l'un vers l'autre, cette vieille amitié. Médor fut heureux de tout ce que je lui racontais de ma vie calme et heureuse, de la bonté de mes maîtres, de ma bonne et même glorieuse réputation dans le pays. Il gémit avec moi au récit de mes tristes aventures. Il rit, tout en me blâmant, des tours que j'avais joués au fermier qui m'avait acheté du père de Georget. Il frémit d'orgueil au récit de mon triomphe dans la course des ânes. Il gémit de l'ingratitude des parents de la pauvre Pauline et il versa quelques larmes sur le triste sort de cette malheureuse enfant. Chapitre 17, les enfants de l'école. Médor s'était écarté un jour de la maison où il était né et où il vivait assez heureux. Il poursuivait un chat qui lui avait enlevé un morceau de viande donné par le cuisinier. On la trouvait un peu avancée, ça veut dire un peu pourrie. Médor, qui n'était pas si délicat, l'avait saisie et posée près de sa niche, lorsque le chat, caché à côté, s'élança dessus et l'emporta. Mon ami ne faisait pas souvent d'aussi bons repas. Il courut à toutes jambes après le voleur et l'aurait bientôt attrapé si le méchant chat n'avait pas imaginé de grimper sur un arbre. Médor ne pouvait le suivre si haut. Il fut donc obligé de regarder le fripon dévorer sous ses yeux l'excellent morceau qu'il avait dérobé. Justement irrité d'une semblable effronterie, il resta au pied de l'arbre, aboyant, grondant et faisant mille reproches. Ces aboiements attirèrent les enfants qui sortaient de l'école. Ils se joignirent à Médor pour injurier le chat. Ils finirent même par ramasser des pierres et lui en jeter. C'était une véritable grève. Le chat se sauva au haut de l'arbre et se cacha dans les endroits les plus touffus en miaulant.
Miaou, miaou, miaou.
Ce qui n'empêcha pas les méchants garçons de continuer leur jeu et de faire des hurrahs de joie chaque fois qu'un miaulement plaintif
miaou, miaou,
leur apprenait que le chat avait été touché et blessé. Médor commençait à s'ennuyer de ce jeu. Les miaulements douloureux du chat avaient fait passer sa colère et il craignait que les enfants ne fussent trop cruels. Il se mit donc à aboyer contre eux et à les tirer par leur blouse. Ils n'en continuèrent pas moins à lancer des pierres, seulement ils en jetèrent aussi quelques-unes à mon pauvre ami. Enfin, un cri rauque et horrible,
« Miaou, miaou !»
suivi d'un craquement dans les branches, annonça qu'ils avaient réussi, que le chat était grièvement blessé et qu'il tombait de l'arbre. Une minute après, il était par terre, non seulement blessé, mais raide mort. Il avait eu la tête brisée par une pierre. Les méchants enfants se réjouirent de leur succès au lieu de pleurer sur leur cruauté et sur les souffrances qu'ils avaient fait endurer à ce pauvre animal. Médor regardait son ennemi d'un air compatissant et les garçons d'un air de reproche. Il allait retourner à la maison lorsqu'un des enfants s'écria « Faisons-lui prendre un bain dans la rivière, ça sera très amusant !»«
Bien dit, bien imaginé !» s'écrièrent les autres. « Attrape-le, Frédéric, le voilà qui se sauve !»
Et voilà Médor, poursuivi par ces méchants vauriens, et lui, courant à toutes jambes. Ils étaient malheureusement une douzaine qui s'étaient espacés, ce qui l'obligeait à toujours courir droit devant lui, car aussitôt qu'ils cherchaient à leur échapper à droite ou à gauche, tous s'entouraient et ils retardaient ainsi sa fuite au lieu de l'accélérer. Il était bien jeune alors, il n'avait que 4 mois. Il ne pouvait pas courir vite, ni longtemps. Il finit donc par être pris. L'un des enfants le saisit par la queue, l'autre par la patte, d'autres par le cou, les oreilles, le dos, le ventre, et ils le tiraient chacun de leur côté et s'amusaient de ses cris. Enfin, ils lui attachèrent au cou une ficelle qui le serrait à l'étrangler, le tirèrent après eux et le firent avancer avec force coup de pied. Ils arrivèrent ainsi jusqu'à la rivière. L'un d'eux allait l'y jeter après avoir défait la ficelle, mais le plus grand s'écria. « Attends, donne-moi la ficelle. Attention-lui, 2 ballons au cou pour le faire nager, nous le pousserons jusqu'à l'usine. » Et nous le ferons passer sous la roue. Le pauvre Médor se débattait vainement. Que pouvait-il faire contre une douzaine de gamins dont les plus jeunes avaient au moins 10 ans? André, le plus méchant de la bande, lui attacha 2 ballons autour du cou et le lança comme une bouée et le lança au beau milieu de la petite rivière. Mon malheureux ami, poussé par le courant plus encore que par les perches que tenaient ses bourreaux, était à moitié noyé et à moitié étranglé par la ficelle que l'eau avait resserrée. Il arriva ainsi jusqu'à l'endroit où l'eau se précipitait avec violence sous la roue de l'usine. Une fois sous la roue, il devait nécessairement y être broyé. Les ouvriers revenaient de dîner et s'apprêtaient à lever la palle qui retenait l'eau. Celui qui devait la lever aperçut Médor et s'adressa aux méchants enfants qui attendaient en riant que la palle, une fois levée, laissa passer Médor et que l'eau l'entraîna sous la roue.
« Encore un de vos méchants tours, mauvais garnement ! Hé, les amis, à moi ! Venez corriger ces gamins qui s'amusent à noyer un pauvre chien !»
Ses camarades accoururent, et pendant qu'ils sauvaient Médor en lui tendant une planche sur laquelle il monta, les autres firent la chasse à ses tourmenteurs, les attrapèrent tous et les fouettèrent, les uns avec des cordes, les autres avec des fouets, d'autres avec des baguettes. Ils criaient tous à qui mieux.
Aïe! Aïe! Ouh! Oui, aïe! Aïe! Ouh! Aïe! Aïe! Ouh! Ah non! Arrêtez, ça fait trop mal! Aïe! Ouh!
Les ouvriers n'en tapaient que plus fort.
Pan! Pan! Allez, pan! C'est pour toi, méchant gamin! Sale gosse!
Enfin, les ouvriers laissèrent aller les enfants et la bande partit, criant, hurlant et se frottant les reins. Le sauveur de Médor avait coupé la ficelle qui l'étranglait. Il avait couché au soleil sur du foin. Médor fut bientôt sec et prêt à retourner à la maison. Le forgeron l'y ramena, mais on lui dit qu'il pouvait bien le garder, qu'on avait déjà trop de chiens et qu'on jetterait celui-là à l'eau avec une pierre au cou s'il ne voulait pas l'emmener. C'était un brave homme. Il eut pitié de Médor et le ramena chez lui. Quand sa femme vit le chien, elle jeta les hauts cris, disant que son mari la ruinait, qu'elle n'avait pas de quoi nourrir un animal propre à rien, qu'il faudrait encore payer l'impôt sur les chiens. Enfin, elle cria et se plaignit si haut que le mari, pour avoir la paix, se débarrassa de Médor en le donnant au méchant fermier chez lequel je vivais déjà et qui avait besoin d'un chien de garde. Voilà comment Médor et moi, nous nous sommes connus, et voilà pourquoi nous nous sommes aimés. Chapitre 18, le baptême. Pierre et Camille devaient être parrain et marraine d'un enfant qui venait de naître et dont la mère avait été la bonne de Camille. Camille voulait qu'on donnât son nom à sa filleule.
« Pas du tout, dit Pierre, puisque je suis le parrain, j'ai droit de lui donner un nom, et je vais l'appeler Pierrette. »
Pierrette? Mais c'est un affreux nom! Pas du tout! Je ne veux pas qu'elle s'appelle Pierrette. Elle s'appellera Camille. Je suis la marraine et j'ai le droit de l'appeler comme moi.
Non, c'est le parrain qui a le plus de droits, et je l'appellerai Pierrette.
Si tu l'appelles Pierrette, je ne veux pas être marraine.
Si tu l'appelles Camille, je ne veux pas être parrain.
Eh bien, faites comme vous voulez. Je demanderai à papa d'être parrain à votre place.
Et moi, mademoiselle, je demanderai à maman d'être marraine à votre place.
D'abord, je suis sûre que ma tante ne voudra pas qu'elle s'appelle Pierrette. C'est affreux et ridicule.
Et moi, je suis certain que mon oncle ne voudra pas qu'elle s'appelle Camille. C'est horrible et bête.
Comment donc m'a-t-il appelé Camille, moi? Va lui dire que c'est un nom horrible et bête. Va, mon bonhomme, et tu verras comme tu seras bien reçu.
Enfin, tu diras ce que tu voudras, mais je dis que je ne serai pas parrain d'une Camille.
Papa, dit malicieusement Camille en courant près de son père, voulez-vous être parrain avec moi de la petite Camille?
Quelle Camille, chère Minette? Je ne connais de Camille que toi.
C'est ma petite filleule, papa, que je veux appeler Camille quand on la baptisera aujourd'hui.
Mais Pierre doit être parrain avec toi, on n'a jamais deux parrains.
Papa, Pierre ne veut plus l'être.
Ne veut plus? Mais pourquoi ce caprice?
Parce qu'il trouve le nom de Camille horrible et bête et il veut l'appeler Pierrette.
Pierrette? Mais c'est bien ce nom-là qui serait horrible et bête.
C'est ce que je lui ai dit, papa, il ne veut pas me croire.
Écoute, ma fille, tâche de t'entendre avec ton cousin. Mais s'il persiste à ne pas vouloir être parrain, qu'à une seule condition, l'appeler Pierrette, je le remplacerai très volontiers. Pendant cette conversation de Camille avec son papa, Pierre avait couru chez sa maman. Maman, lui dit-il, voulez-vous remplacer Camille et être marraine avec moi de la petite fille qu'on doit baptiser aujourd'hui?
Pourquoi donc remplacer Camille?
La bonne demande que ce soit elle qui soit ma reine.
Maman, c'est parce qu'elle veut que la petite fille s'appelle Camille. Je trouve ce nom très laid, et comme je suis parrain, moi, je veux qu'elle s'appelle Pierrette.
Pierrette? Mais c'est un autre nom. Autant Pierre est joli, autant Pierrette est ridicule.
Au moment, je vous en prie, laissez-moi l'appeler Pierrette. D'abord, je ne veux pas qu'elle s'appelle Camille.
Mais si aucun de vous ne veut céder, comment vous arrangerez-vous?
Voilà pourquoi, maman, je viens vous demander de remplacer Camille pour appeler la petite Pierrette.
Mon pauvre Pierre, d'abord je te dirai franchement que je ne veux pas non plus de Pierrette, parce que c'est un nom ridicule. Et puis la mère d'un enfant a été bonne de Camille et non pas la sienne. Et tu penses bien que c'est surtout Camille qu'elle veut avoir pour marraine de sa fille. Je crois même qu'elle sera contente que son enfant porte le nom de Camille.
Alors je ne veux pas être parrain, dit Pierre. Camille accourut au même instant.
Eh bien, Pierre, es-tu décidé? On va partir dans une heure et il faut absolument un parrain.
Je veux bien qu'elle ne s'appelle pas Pierrette, mais je ne veux pas qu'elle s'appelle Camille.
Puisque tu veux bien céder pour Pierrette, je veux bien aussi te céder pour Camille. Tiens, faisons une chose. Demandons à ma bonne quel nom elle veut donner à sa fille.
Tu as raison. Va le lui demander. Camille repartit en courant. Elle revint bientôt.
Pierre, Pierre, ma bonne veut que sa fille s'appelle Marie-Camille.
Lui as-tu demandé s'il ne fallait pas l'appeler Pierrette, puisque je suis parrain?
Si, je lui ai demandé. Elle s'est mise à rire. Maman a ri aussi. Elles ont dit que c'était impossible, que Pierrette était trop laid.
Pierre rougit un peu. Pourtant, comme il commençait lui-même à trouver Pierrette un nom ridicule, il ne dit rien et soupira. Fin de la première part de la quatrième cassette, page 133, Mémoire d'un âne, par la comtesse de Ségur.